Frères et sœurs, nous continuons à méditer sur l'épître de Jacques. Probablement frère de Jésus, pasteur de la grande église de Jérusalem, considéré comme une colonne par les apôtres. Il a écrit tout au bout du Nouveau Testament cette lettre un peu carré quand même, mais de temps en temps, il faut entendre les choses d'une manière claire, sans parabole. Jacques, chapitre 1er, verset 2, on reprend un peu ce que nous avons déjà lu la semaine dernière. Jacques, chapitre 1er, verset 2, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous arrêterons ici notre lecture. Amen. Frères et sœurs, nous devons faire un pas de plus. Quand vous marchez, vous faites toujours un pas de plus. Sinon, vous allez tomber. Et le deuxième pas que vous faites vous évite la chute. Et je pense qu'il faut marcher sans cesse, grandir sans cesse. C'est le Seigneur qui le demande à son assemblée. À travers Jacques, je crois qu'il va nous donner de grands conseils pour qu'on ne s'arrête pas satisfait, que l'on ne se morde pas les uns les autres, mais que l'on se tende la main et qu'on avance dans un perfectionnement. Que fait le Seigneur aujourd'hui, à l'heure où je vous parle? Le Seigneur n'est pas dans le repos sur un hamac. Il n'est pas assis sur un divan. Le Seigneur prépare l'Église pour sa venue. Il prépare le royaume en nous. Il travaille avec nous. Il ne nous attend pas seulement. Travaille avec nous. Il travaille avec notre persévérance. Si je l'abandonne, il ne travaille plus. Il travaille avec ma persévérance, avec ma résistance dans la petite guerre des soucis quotidiens avec les enfants. Il travaille avec ma fermeté dans les décisions que j'ai prises à mon baptême, à mon mariage. Et chaque jour, nous prenons des décisions. On en parlera cet après-midi. Choisir. Il travaille avec nous et il le fait dans les épreuves. Les épreuves montrent si oui ou non. Nous lisons la Bible, nous aimons sa parole. Si nous avons reçu sa parole dans un cœur honnête et bon. Si sa parole ne tient pas en nous, ça va se voir. On va devenir méchant, agressif, faux. Si sa parole tient en nous, elle va nous transformer. Jésus travaille avec sa parole. La Bible dit « Dieu a mis Abraham à l'épreuve ». Vous savez comment ? Abraham, prends ton fils, ton unique, offre-le en holocauste sur la montagne que je te montrerai. C'est une épreuve pour que la foi d'Abraham agisse et qu'elle soit vue depuis le ciel par les anges et sur la terre dans la vie de milliards de chrétiens et de juifs. La foi d'Abraham est une lumière. Cette épreuve a fait d'Abraham un phare. L'œuvre de Dieu, c'est que nous soyons pas avec une étiquette « bon pour livraison », « livraison pour le ciel ». Non. L'œuvre de Dieu, c'est que chaque jour, nous soyons des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, dans la bataille que nous menons ensemble, dans nos foyers, notre travail, l'Église. L'œuvre de Dieu, c'est que nous soyons des imitateurs de Dieu, des acteurs avec Dieu. Sinon, si ça, c'est pas au fond de nos cœurs, si c'est seulement dans nos pensées, dans nos sentiments, la foi, dans nos cantiques, je pense que nous ne tiendrons pas. Si ça ne fait pas partie de la vie de chaque jour, il y aura une contrariété qui vous fera chuter. Il y aura des incompréhensions dans votre vie qui vous mettront par terre. Il y aura même peut-être dans votre vie des duretés, des scléroses. Sclérose, c'est un mot grec, ça veut dire dureté, des duretés de cœur. Si la foi n'est pas vraiment en nous, avec l'œuvre de Dieu, on ne va pas y arriver. On ne va pas arriver au bout. Je ne voudrais pas que le Seigneur dise « Je ne vous ai jamais connu ». La foi, c'est-à-dire la vie avec Jésus, la conversation, le partage avec Jésus, doit être résistante, durable, croissante, avec sa jumelle, l'amour. Pour cela, c'est le thème de ces quelques mots de ce matin, il faut que nous comprenions les épreuves. Il faut les comprendre, parce que les difficultés de l'existence, santé, soucis des enfants, etc., le Seigneur fait concourir tout ça pour notre bien. Et la sagesse, la compréhension, l'intelligence, c'est justement de comprendre que dans les situations difficiles, Dieu fait quelque chose. Et il faut vivre les situations difficiles dans la lumière du Christ, en pensant à Jésus, que nous sachions prendre des bonnes décisions, que nous puissions regretter le mal que nous avons dit, nous désengager si ça ne va pas, prendre le bon chemin, travailler avec Dieu, la main dans la main avec Jésus, notre Rédempteur. Donne-nous de l'intelligence du cœur. Amen. Pour comprendre ce que nous vivons. Et pas dire, il n'y a pas de Dieu, je ne peux plus continuer, lâcher l'Église. Ce sont des réactions de bébé, ça. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, on avait l'impression que c'était rare à l'époque. J'avais l'impression que les gens à l'époque étaient dans les Écritures jour et nuit. Si quelqu'un manque de sagesse, si on manque de sagesse, je peux vous le dire, d'intelligence, de compréhension, on ne sera pas stable, on prendra des mauvaises décisions. On aura des sentiments charnels, diaboliques même, parce que le diable se glisse bien dans les petites fissures. Il ne faut pas seulement connaître les vérités. Avec sa tête, son esprit, il faut que ces vérités soient dans le combat quotidien. quand je suis malade, quand j'ai des soucis dans mes relations humaines. Il faut que tout ça se soit mis devant le Seigneur, avec le Seigneur. Il faut que la vérité de l'Évangile soit dans tout ce que nous faisons comme le sel dans la soupe. On ne met pas le sel à côté de la soupe, on met le sel dans la soupe. Il faut que Jésus soit partout en nous. Il faut que cette vérité de l'Évangile que nous aimons, que nous chantons, il faut qu'elle nous saisisse, qu'elle nous entraîne, qu'elle nous convertisse. Mais je suis converti, frère. Il y a des choses en nous qui ne sont pas converties. Il y a des positions, des avarices même, des rébellions qui ne sont pas converties. Il faut que cet Évangile que nous aimons tous, il faut qu'il nous rende libres. La vérité vous libérera. Libre des enfantillages. Vous connaissez les enfantillages? Maman, elle m'a dit ça. Papa, il m'a fait ceci. Les enfantillages. On s'arrête sur des petites choses, alors que devant nous, il y a un monde à sauver. Et là-haut, il y a le royaume qui nous attend. La grâce de Dieu, l'évangile du Christ, la vie avec Jésus, ce n'est pas pour qu'on ait une belle fin de vie. Parce que beaucoup disent, bon, ça y est, maintenant je suis sauvé, je peux partir en paix. Ce n'est pas pour une belle fin de vie où dans notre vie nous aurons eu échec sur échec, tentation, succomber à la tentation, infidélité, désordre. Puis après on mourra et on ira rejoindre les héros de la foi, les héros et les saints de l'Église et du peuple d'Israël. Non! Chaque jour, on est chrétien. La grâce de Dieu, c'est pour les réalités de chaque jour. Tout doit être mis en prière. Les départs de vos maisons, le retour à vos maisons, les rencontres que vous faites. Jacques, il élève l'Évangile dans son épître. Il est contre un Évangile qui serait incapable de transformer nos caractères. Notre intelligence, un évangile qui nous laisserait charnel, violent, coléreux, intempestif, borné dans ses vues. Non ! L'évangile, c'est ressembler à l'ouverture de cœur, la générosité, l'amour incroyable de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Pas seulement mourir dans la foi, mais vivre dans la foi. Saintement, être un peuple intelligent de cœur qui ne fait pas de clan. On le verra chez Jacques, dans les églises là, dispersées, où il y avait des clans riches, de pauvres, de gens qui pensent bien, des gens qui pensent moins bien. L'Évangile doit faire de nous un peuple qui sache tenir sa langue. Jacques, il en parle. Une langue retenue, bridée, dominée. L'Évangile doit faire de nous des gens qui savent ce que représente l'or et l'argent. Pas devenir avare, égoïste, vivant que pour l'argent. Il en parle. Enfin, bref, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Amen, c'est simple, hein. Comme la veuve, « Seigneur, fais-moi justice, mes voisins me font la guerre, fais-moi justice. » Et le juge a fait justice. Demandez. On est obligé de demander parce que on n'a pas tout. Nous devrions avoir l'intelligence du cœur, l'intelligence de la foi, et ça nous manque. Je le vois au milieu de nous. Je le vois dans ma vie, je le vois partout. Il y a encore trop de réactions charnelles. Jacques, il dit, diabolique. Il faut demander au Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur paisible, intelligent. Il nous ouvre une porte là. Demandez. Nous avons l'autorisation de demander. Chaque matin, je commence en disant, Seigneur, pour tout ce que je vais faire, donne-moi ton conseil, donne-moi tes directions, donne-moi ton intelligence, donne-moi ta lumière. Il faut aller vers Dieu en disant, mon Père, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis fatigué, peut-être ne suis pas, j'ai du mal à comprendre tout, mais je ne peux pas m'en tirer tout seul, mais viens m'aider, Seigneur. Si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Luther, Martin Luther, premier protestant, avait fait pour les enfants, comme j'ai fait moi-même d'ailleurs, un catéchisme, une base, en disant « Dieu est vraiment un Père, et nous, nous sommes vraiment ses enfants. Alors il faut prier sans crainte, en confiance. » Vous voyez ça ? Vraiment un Père, et nous, vraiment ses enfants. Il ne faut pas qu'on écoute seulement les gens qui disent « Allez, demande des conseils, tiens, je vais te passer une vidéo, je vais te passer un bon livre. » Reprends confiance, renouvelle-toi. Jacques dit non, on n'a qu'une chose à faire quand on ne comprend pas le chemin. Demande à Dieu, prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père sait de quoi tu as besoin. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Je suis avec vous tous les jours. Il faut demander. Il y a une relation peut-être que nous avons perdue, que Dieu veut avoir avec nous. Il veut nous donner chaque jour quelque chose, chaque jour, pas à Noël seulement, chaque jour. Ne pas s'inquiéter parce qu'on s'inquiète quand on n'arrive pas à bout de ce qu'on fait, quand on ne maîtrise pas ses épreuves, quand tout nous échappe. Bien, un chemin ouvert, un trône nous attend, un trône de grâce pour nous secourir. On va y aller cette semaine, amen. On va y aller ensemble. Sinon, le danger, quand on ne comprend pas ces épreuves, c'est qu'on s'oppose à la fidélité de Dieu en disant, en pensant, on ne le dit pas, on le pense. Dieu n'est pas là, Dieu ne fait pas ceci, pourquoi ? On se méfie de Jésus-Christ. On se méfie parce qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les difficultés que nous avons, il y a un combat de Jésus avec nous. Il y a la victoire de Jésus pour nous. Dans nos difficultés, Dieu travaille avec nous. C'est notre salut qu'il fait. Le salut, ce n'est pas un diplôme qu'on met dans son armoire, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Toutes les épreuves sont un appel de Dieu. Venez, demandez, priez, attendez le Seigneur. Ne combattez pas seul. Il faut qu'on redise, nos chants sont bien, mais parfois ils ne disent pas tout. Il faut qu'on redise qui est notre Dieu. Qu'il demande à Dieu, dira Jacques, qui donne à tous simplement et sans reproche. Voilà le nom de Dieu pour nous, un Dieu qui donne. Amen. Un Dieu qui donne. Chaque jour, on s'est déshabitué de ça. Il faut retrouver ce contact. La nature de Dieu, c'est de donner. Dieu donne. C'est pourquoi l'offrande est importante. Parce que l'offrande dans l'Église, c'est une imitation. C'est se rapprocher de Dieu qui donne sans cesse à tous, simplement. Parfois, on se dit, mais je ne mérite pas, je ne suis pas saint, je ne suis pas assez pieux. Mais Jésus, il nous perfectionne, il fait de nous des gens irréprochables, petit à petit. Il ne faut pas que nous disions, je ne peux rien lui demander, je n'ose pas, je ne suis pas digne. Il donne à tous, parce qu'il fait pleuvoir, il fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il donne à tous. Seigneur, donne-nous de l'intelligence. Donne-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous à tous ce matin. Amen. Il donne à tous simplement. Il aurait des raisons de dire, pas toi. Tu sais ce que tu as dit hier après-midi. Tu sais ce que tu as fait hier matin. Notre Dieu donne à tous simplement et sans reproche. pourrait nous reprocher beaucoup de choses. Il pourrait dire au fils prodigue, comme le père admirable pourrait dire au fils prodigue, « Bon, tu rentres, mais attention, avant de rentrer, on va s'asseoir devant la maison. Et je vais te faire une liste, j'ai 43 reproches à te faire. Tu es prêt ? On commence. » Non. Le père, il a pris son enfant dans les bras, il a pleuré. Il était ému de compassion. Il ne fait pas de reproches, il donne à tous simplement et sans reproche. Je ne mérite pas, mais tu me l'offres, Seigneur. Amen. Jacques dit qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, mais qu'il demande sans douter. Vous savez que le tentateur est capable de s'infiltrer dans nos prières pour qu'on puisse douter, qu'on puisse dire « Est-ce que Dieu vraiment m'entend ? Est-ce que c'est vraiment utile ? À quoi ça sert de continuer de prier ?» Ou peut-être de se dire « Je mérite bien ça, l'orgueil. Dieu doit. » C'est terrible quand on dit ça. Dieu doit. Dieu n'est dépendant de personne. Ce qu'il fait, il le fait parce qu'il nous aime. Amen. Celui qui doute, douter dans la Bible, ça veut dire hésiter. Hésiter entre deux choses. Comme les enfants d'Israël, à la sortie de l'Égypte, ils ont dit, Dieu est-il là ou est-il pas là ? Ils hésitaient. Il est là ou il n'est pas là ? Ça, c'est le doute. C'est un peu comme le flot de la mer, dit Jacques, ballotté d'un bord et d'autre. Ces gens qui sont comme ça, dans le doute, en général, ils sont inconsistants, irréguliers dans toute leur vie. Il n'y a pas d'ordre dans leur vie. Quand il n'y a pas d'ordre dans notre vie, il n'y a pas d'ordre dans la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, c'est un peu le reflet de notre vie personnelle. Et la stabilité de la vie donne une stabilité de foi chrétienne. Il nous manque beaucoup, frères et sœurs. Non, vous ne trouvez pas ? Il nous manque beaucoup pour qu'on ne juge pas les faiblesses des autres, qu'on ne se condamne pas dans nos faiblesses, mais qu'on attende qu'il demande à Dieu qui donne. Il nous manque beaucoup parce qu'il faut comprendre le chemin compliqué des gens, de nos enfants. Tout est compliqué, tout est complexe. Le chrétien, lui, doit comprendre. Un chrétien, ça ne marche pas qu'avec des signes et des visions. Ça, ce sont les secours d'urgence de Dieu. Mais on n'est pas dans les urgences tous les jours. Pour conduire ma vie personnelle, je demande que Dieu me donne un cœur intelligent. Parce que les secours d'urgence, une fois dans ma vie, j'étais aux urgences, dans l'ambulance, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que je faisais, j'étais sonné par un accident de voiture, à béton d'ailleurs. Alors je ne comprenais pas très bien, j'étais complètement sonné, mais ça c'est l'urgence. Mais Dieu veut qu'on vive ce que l'on croit. Il veut qu'on réfléchisse, ne pas se précipiter, ne pas murmurer. Tout ça c'est chez Jacques, être lent à parler, ne pas juger sur l'apparence, comprendre les plans du diable aussi, comprendre ses manœuvres dans nos vies, dans l'Église même, dans l'Église. Que Dieu nous donne de l'intelligence. Amen. Je crois que les Écritures saintes nous donnent de l'intelligence. Ils nous montrent comment les anciens faisaient, comment les apôtres, les prophètes, comment ils vivaient, Daniel, Moïse. Ils nous apprennent quelque chose. Et quand on lit ça, le Saint-Esprit, il pousse. Il dit, voilà ce que je veux faire avec toi. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. C'est écrit dans Ésaïe 11. En parlant du Christ, il est dit, l'Esprit reposera sur lui, c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit est très intelligent. Le Saint-Esprit est très sage. Le Saint-Esprit est très fort. Il conseille. C'est un esprit de force. Et tout cela, l'apôtre nous dit, vous l'avez. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Un esprit qui nous laisserait bébête, mais c'est un esprit qui rend intelligent, qui rend fort, qui rend maître de nous, maître de notre langue, maître de notre corps. C'est un esprit qui fait de nous des hommes, des femmes rayonnants, joyeux, qui construisent, qui ressemblent à Jésus, qui ont quelque chose de Jésus, qui ressemblent à leur grand frère. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Nous allons ensemble incliner nos têtes. Et nous traversons tous des épreuves, mes frères et sœurs, et même des épreuves, nous ne savons même pas que c'est une épreuve. Il peut y avoir des complications dans la vie, puis on veut avoir raison, et on veut avoir raison, puis on aura raison, et puis on ne sait pas qu'il y a eu une épreuve. Il fallait d'abord se mettre à genoux et réfléchir et attendre Dieu. Et tout cela, je veux vous le dire, ça peut arrêter l'Église, ça peut freiner l'Église, ça peut attrister le Saint-Esprit, et il ne faut pas que le Saint-Esprit soit attristé aujourd'hui. Il faut qu'il puisse avoir une vallée bien ouverte, la vallée de notre cœur, et que l'Esprit continue à souffler au milieu de nous. Amen. Le travail, Dieu travaille avec nous. Dernier verset de l'Évangile, Dieu travaillait avec eux par des signes et des miracles. Il travaillait avec eux. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Nous sommes devant ta parole, attentifs, avec un cœur ouvert. Nous ne voulons pas oublier ce que nous avons lu, médité ce matin. Nous ne voulons pas l'oublier ce soir, ce midi, demain. Je te prie de tout mon cœur pour que l'Évangile fasse partie de notre existence, pas seulement pour la fierté de quelqu'un, mais pour te redire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à comprendre notre chemin, à comprendre quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est agréable au Seigneur, à comprendre ce qui est parfait, à comprendre ce que nous devons faire les uns pour les autres, à comprendre toute l'importance d'être ensemble, dans un même lieu. Seigneur, nous avons vu des frères et sœurs s'élancer dans les voies de Dieu et s'arrêter quelques heures après, piégés par le malin, sous le filet du diable. Nous voulons acquérir beaucoup de force et de sagesse, et de joie et de patience. Nous voulons traverser ce temps, le temps des larmes de la vie, le temps des épreuves de la vie. Nous voulons le traverser avec nos yeux dans les yeux du Seigneur, nos mains dans ses mains, notre cœur à son écoute, car tu fais quelque chose en nous aujourd'hui. Tu fais quelque chose dans l'Église de Rennes. Garde-nous de la folie, des emportements. Donne-nous de revenir à nous-mêmes et de te demander, toi qui donnes à tous, donne-nous ta parole. Donne-nous ton calme. Donne-nous ta joie. Donne-nous ton Esprit Saint. Amen.